Vous écoutez, on lit pour vous.
Des inégalités de santé importantes entre les enfants montréalais. Un texte de Florence Morin-Martel paru le 21 octobre 2024 dans Le Devoir. Vaccination, activité physique et temps d'écran. Des inégalités de santé importantes persistent ou augmentent entre les enfants des quartiers défavorisés et ceux des milieux mieux nantis de la métropole, estime la directrice régionale de santé publique de Montréal, la docteure Mylène Drouin. Elle a dévoilé le 21 octobre 2024 un nouveau rapport qui fait état de la santé et du développement des Montréalais âgés de 0 à 12 ans. Plus précisément, la docteure Drouin a sélectionné divers indicateurs pour avoir une vision globale de la périnatalité, de la santé physique, du développement et de la santé mentale, ainsi que des habitudes de vie des enfants qui vivent sur le territoire. La proportion d'enfants montréalais de la maternelle qui sont très peu ou pas actifs était de 60 % en 2022, ce qui est plus haut que dans le reste du Québec, constate entre autres la docteure Mylène Drouin. Ce taux s'élevait à 67 % chez les petits des quartiers défavorisés de la métropole, comparativement à 55 % chez ceux des milieux plus nantis de la ville. Le document révèle également qu'en 2022, 18 % des enfants montréalais passaient en moyenne plus de 2 heures par jour devant un écran, ce qui représente une plus forte proportion que dans le reste de la province. Ce taux s'élevait d'ailleurs à 23 % chez les enfants de milieux défavorisés de la métropole, alors qu'il était de 12 % chez ceux des quartiers plus cossus. Quant à la couverture vaccinale contre la rougeole et la varicelle chez les élèves des écoles primaires de Montréal, elle est passée de 81 % en 2016-2017 à 78 % en 2022-2023. Il y a eu plus d'hésitation vaccinale post-pandémie. Et puis, on a évidemment accumulé du retard dans ces couvertures vaccinales durant la crise sanitaire, car les interventions scolaires étaient moins présentes à ce moment, explique la docteure Mylène Drouin. Cette dernière note par ailleurs de grands écarts de taux de vaccination contre la rougeole et la varicelle entre les différents quartiers de la métropole, ces taux allant de 65 % à 86 %. La docteure Drouin estime que les stratégies et les pratiques pour rehausser ces couvertures vaccinales sont déjà connues. Certaines familles peuvent rencontrer des obstacles dans l'accès à la vaccination, relève-t-elle. Il faut donc s'assurer, par exemple, que certaines vaccinations se poursuivent en milieu scolaire ou dans les milieux de vie où les jeunes sont. Des services de garde de qualité et accessibles. Dans son rapport, la directrice régionale de santé publique de Montréal affirme que le Québec doit se doter de politiques ciblant à la fois l'équité en santé et en éducation. Elle émet donc plusieurs recommandations à cet effet destinées aux décideurs provinciaux, régionaux et locaux. La docteure Drouin soutient entre autres qu'il est urgent d'aménager des milieux de vie complets, sécuritaires et inclusifs pour les tout-petits. Sachant que parfois les conditions de vie font que les familles se déplacent dans des lieux où il y a moins d'accès aux services, moins de parcs et où le transport est moins facile, clairement il faut qu'on soit capable d'offrir des quartiers à hauteur d'enfants. La docteure Drouin préconise également un meilleur accès aux services de garde éducatifs à l'enfance de qualité, en particulier pour les tout-petits issus de milieux socio-économiques défavorisés. Il s'agit d'une des mesures les plus efficaces pour réduire les inégalités sociales de santé chez les enfants et soutenir leur développement, souligne la docteure Catherine Déa, chef médical du secteur jeunesse 0-25 ans à la Direction régionale de santé publique de Montréal. Actuellement, au Québec, et ce n'est pas juste spécifique à Montréal, il y a quand même des enjeux importants au niveau de la qualité éducative selon les types de services de garde qui sont sous le radar du ministère de la Famille, ajoute la docteure Déa. Jointe par Le Devoir, la ministre de la Famille, Suzanne Roy, affirme par écrit que les conditions de vie, les environnements et les milieux de vie dans lesquels les enfants grandissent ont des impacts sur leur bien-être et leur développement. À Montréal, il y a certaines disparités qui font en sorte que les défis sont parfois plus grands que dans d'autres régions. Je travaille fort pour compléter le réseau de services de garde partout au Québec, pour offrir des places de qualité au plus grand nombre et pour soutenir les organismes communautaires qui viennent en aide aux familles, ajoute-t-elle. C'était « Des inégalités de santé importantes entre les enfants montréalais », un texte de Florence Morin-Martel paru le 21 octobre 2024 dans Le Devoir.
J'ai choisi la violence. Un texte de Jean-Philippe Béril-Guérard, paru le 13 octobre 2024 dans La Presse. Avec leur plume unique et leur sensibilité propre, des artistes nous présentent leur vision du monde qui nous entoure. Voici celle du romancier, dramaturge, acteur et metteur en scène Jean-Philippe Béril-Guérard. J'ai découvert un luxe insoupçonné quand je me suis mis à faire plus d'argent. Le cash a le pouvoir de transformer les nouvelles épouvantables en légers inconvénients. Prenez les amendes, par exemple. Quand je chauffais ma vieille Volvo V70 2000 Vert-Forêt, que ma mère avait refilée à ma sœur, qui l'avait refilée à mon autre sœur, qui me l'avait finalement refilée, avec 250 000 kilos au compteur. Un ticket de vitesse pouvait signifier que j'allais faire vache maigre pour quelques semaines ou, si je rangeais mon orgueil de côté, que j'allais appeler ma mère pour qu'elle me paye une épicerie. Aujourd'hui, je ne peux pas dire que je suis enjouée à l'idée de payer une amende. Mais celle-ci ne me transformera pas en adepte involontaire du jeûne intermittent. Je n'ai plus de char non plus, donc moins de risque de recevoir une amende. Ça aide. La punition fait moins mal depuis que je fais plus d'argent. C'est absurde quand on y pense. Rien n'a changé dans le risque que je poserais à mes concitoyens en enfreignant le code de la sécurité routière. Une collision avec un piéton ne lui ferait pas moins mal maintenant que j'ai des REER. Les gens riches ne coussinent pas leur pare-choc avec des liasses de billets de 100, mais implicitement, c'est le message que la loi envoie. Briser les règles est un droit qui s'achète. C'est pour cette raison que je fais particulièrement attention quand je traverse la rue et que je vois une Audi, une BMW ou une Tesla qui s'en vient dans ma direction. Ça n'est pas seulement basé sur une impression. Plusieurs études ont conclu que les propriétaires de voitures de luxe violaient plus fréquemment la loi. La route est faite pour les riches. Ceux-ci peuvent se permettre d'y circuler comme ils le veulent, moyennant quelques amendes, et ils peuvent aussi se permettre d'acheter de plus gros chars, dans lesquels ils ont nécessairement plus de chances de survivre à une collision. Et si par malheur, je devais être heurté par le chauffeur d'un gros char qui n'avait pas envie de respecter le code de la route un bon matin, la faute serait entièrement mienne. Je n'avais qu'à être riche, moi aussi. Je ne suis pas un piéton exemplaire, pas au sens où je ne respecte pas le code de la route. J'habite au centre-ville de Montréal et ce serait du suicide que d'essayer de marcher aussi cavalièrement que les gens conduisent. Ce qui n'est pas exemplaire, c'est ma façon de réagir quand je passe près de mourir chaque semaine. J'ai défoncé un phare d'un coup de pied quand un conducteur qui avait brûlé un feu s'est arrêté à quelques centimètres de moi. Ça s'est réglé avec la police, qui cogne chez moi, et moi qui signe un chèque de la valeur d'un nouveau phare. j'ai tapé sur un char qui a brûlé un stop et qui est passé près de nous écraser, mon chien et moi-même, pendant une promenade nocturne. Le chauffeur m'a expliqué que si je touchais à sa property une fois de plus, il allait me foncer dedans. J'ai demandé à deux policiers d'intervenir quand ils ont vu une conductrice passer un arrêt et, encore une fois, manquer de me heurter. Ils m'ont dit de me calmer parce que j'étais simplement dans son angle mort. J'ai appelé le SPVM pour leur demander le lien entre un angle mort et un stop américain, mais ils n'avaient pas la réponse. Quand je frôle la mort, il faudrait que je reste docile et que je demande pardon, peu importe qui est dans le tort. Ce que j'ai fini par comprendre de la part des chauffeurs et des autorités avec lesquelles j'interagis sur le sujet, c'est qu'il est plus important de protéger la propriété privée que les vies humaines. L'organisme Vision Zéro Vancouver l'a bien compris. Pour célébrer le poisson d'avril en 2024, ils ont mis au point un stunt dans le secteur Granville Island. Aux côtés d'un passage piéton, ils ont installé un panier rempli de briques et invité les piétons à en prendre une et à traverser la rue en la tenant bien haut afin d'indiquer qu'ils avaient choisi la violence et qu'ils étaient prêts à endommager un char pour assurer leur survie. Les briques étaient en styromousse. Ce n'était qu'un stunt. Il a tout de même prouvé quelque chose d'essentiel. La vraie de vraie violence n'est pas absolument nécessaire. La simple possibilité que la propriété privée soit endommagée suffit à rendre les conducteurs plus dociles. Pourtant, me semble que si t'es capable de te payer une BMW et une trolley de tickets, tu devrais être capable de te payer une job de peinture. C'était « J'ai choisi la violence », un texte de Jean-Philippe Béryl-Guérard, paru le 13 octobre 2024 dans la presse.
Le parler acadien, un précieux héritage. Une lettre à l'éditeur, signée Normand Godin, parue le 11 octobre 2024 dans Le Courrier de la Nouvelle-Écosse. À 32 ans, j'ai appris d'Alphonse Deveau que j'étais d'origine acadienne. C'est sans doute pourquoi j'étais revenu d'exil au Québec, que je me sentais si bien à la baie Sainte-Marie, et que, pendant 50 ans, j'ai approfondi le parler de mes ancêtres, celui de l'abbé. J'ai bien regret de m'y être limité, chers amis de la diaspora. Les colons français, qui émigraient d'un peu partout en France vers la colonie appelée Acadie, apportaient leur variété linguistique régionale. Et, dans leur nouveau village, ils s'échangeaient prononciations et mots. Or, leur conjoncture géographique nouvelle, le climat, les saisons, la mer et les retours de la déportation les ont forcés à se créer de nouveaux mots ou de nouvelles manières d'exprimer leur vécu. C'est ainsi que de multiples parlers ont émergé. Heureusement, les richesses de ces vernaculaires sont consignées dans de nombreux glossaires. Entre autres, le parler de la baie Sainte-Marie, de Félix Thibaudeau. Le glossaire acadien, de Pascal Poirier. Et le dictionnaire du français acadien, d'Yves Cormier, qui couvre tous deux l'ensemble des régions d'Acadie. Le glossaire du vieux parler acadien, d'Éphrem Boudreau, Cap-Breton. Sans oublier l'indispensable dictionnaire historique de la langue française de Robert, qui donne l'origine des mots. Les œuvres littéraires du 11e siècle jusqu'à 1632, lorsque la véritable colonisation acadienne a débuté, ne sont pas à négliger. Par exemple, dans « La chanson de Roland », poème épique du 11e siècle, on trouve le verbe « voir ». Je l'ai vu, V-E-U-E. Et dans les œuvres de Champlain, on trouve « vu », V-E-U, ou « vu », V-E-U-E tréma, exactement comme on l'entend dans certains coins de l'Acadie. Comme les parlers acadiens sont essentiellement du français régional, avec des ajouts et des transformations en terres d'Amérique, j'ai été frappé par les particularités suivantes, essentiellement de l'abbé. Les mots sont soit anciens, exemple, la pulpite, la chaire, employée à Wedgeport. Le doré, dori, des hauts ary grecs, doris, embarcation. Guignon, petite guenille, 1652. Stila, qui vient du Moyen Âge, sestuila. Le mot bourne, ou sa variante bourgne, nous vient de France. En effet, un pêcheur, 14e siècle, qui avait maille à partir avec son voisin qui lui volait du poisson, expliquait à un juge itinérant la signification du mot borgne. Nasse à une seule ouverture. Dans certaines parties de l'Acadie, les bournes n'avaient qu'un orifice. Et la savoureuse expression « Albert est le portrait tout chier de son père ». Or, dans la farce de maître Pierre Patelin, 15e siècle, on trouve « C'est le portrait tout crachier de son père », une allusion au sperme. L'accent tonique porte sur « chier ». Ou des formes prestigieuses de verbes, mais pas très anciennes. L'emploi du subjonctif imparfait « Il faudrait que tu venies, que tu vinces ». La différence entre le passé composé « J'ai mangé ça à ma tonne », action passée avec lien avec le passé, car j'ai roté tout l'après-midi. Et le passé simple « Je mangis ça à Noël », action passée sans lien avec le présent, comme en espagnol. Et l'emploi du passé surcomposé. Tant qu'il a eu fini de travailler. Quand il a eu fini. Mot prononcé de manière différente. Joumar est une prononciation aspirée du mot homard. Le Larousse nous l'indique bien par un astérisque. Dans mes classes, les Acadiens savaient presque toujours, sans consulter le dictionnaire, qu'un mot en H était ou non aspiré. Mais ils aspirent aussi hôtel, horrible. Aster n'est autre que à 7 heures. Aster, mot vieilli ou régional selon Larousse. Balzac écrivait Aster, mot contemporain, mais dont le sens diverge des autres définitions au dictionnaire, mais qui vont dans le sens originel de ces mots. Exemple, gobiller au lieu de godiller dans certaines régions de l'Acadie, manœuvrer une embarcation par un mouvement de gauche à droite de la godille, mouvement qu'on peut aussi appliquer à un cycliste qui louvoie. L'acception acadienne Il gobille désigne la marche d'une personne ivre. Faux anglicisme. Je suggère de consulter le Oxford Dictionary of English Etymology. En as-tu mangé? Oui, j'en ai mangé un petit. A little. Ne devrait pas-on dire un petit peu? Non, il est employé au 16e siècle, notamment par Rabelais. Le prêtre monte dans la pulpite, la chaire. C'est un mot médiéval qui nous vient du latin pulpitum. La pantry, où l'on garde le pain, viendrait-il de l'anglais pantry? Non, plutôt du français la panetterie. Canceller, mot français, a été copié par les Anglais. Et les mots micmac, madouesse, porc épic, mâchecouille, écorce de bouleau. Le genre des mots, on disait autrefois la serpent ou sapre, employé au sud du Cap-Breton. La silence, du 13e au 17e siècle, qui signifiait repos, inaction, absence de mouvement. La couchée de soleil, 14e siècle, employée dans la région d'Argile. On pourrait s'amuser longtemps à départager les vraies particularités du parler acadien du français international d'aujourd'hui et d'autrefois. Quel plaisir de découvrir l'origine lointaine des mots, souvent latines, et de prouver leur authenticité dans les gros livres. Le courrier a beaucoup parlé de l'insécurité linguistique que les gens éprouvent devant ceux qui parlent le français standard. Or, tous les peuples, italiens, allemands, anglais, arabes, emploient de multiples variétés régionales par rapport à la norme. Par contre, à l'école, ils apprennent tous la langue phare de leur pays. Cela pour que les contrats, les livres, les journaux, la télé et l'école soient compris par tous. Comptons-nous chanceux. Depuis la conquête romaine de la Gaule jusqu'au 17e siècle, la langue standard était le latin. On peut lutter contre l'insécurité langagière en utilisant avec fierté sa langue maternelle, pleine de nuances et aux racines profondes, étant convaincu de son authentique valeur. On peut également apprendre le français international pour communiquer avec les peuples de la francophonie et pour occuper des postes qui exigent un français universel. Malheureusement, beaucoup de cette richesse s'est perdue suite à la modernisation, à l'envahissante anglicisation, du fait qu'elle n'est pas codifiée, qu'elle n'est pas écrite, d'où le manque de matériel pédagogique, et qu'elle n'est pas abondamment diffusée dans les médias. Bravo à Radio CIFA, pour des années de programmes en parler local, Claire et Argyle. Cet apport est majeur. Comment alors conserver et enrichir son acadien, puisqu'il est essentiellement parlé? Il existe des textes de Félix Thibodeau, de Marie-Colombe Robichaud, de Rachel Watts, Tali ou la beauté d'une femme, 20 histoires avec mes notes linguistiques. Merci à mes personnes ressources, Gisèle Thibault, Denis Como et François Thibault. Et je lève mon chapeau à Germaine Como pour avoir colligé les écrits de Félix Thibodeau qui nous font rêver de ce français d'en premier. C'était le parler acadien. Un précieux héritage. une lettre à l'éditeur signée Normand Godin, parue le 11 octobre 2024 dans Le Courrier de la Nouvelle-Écosse.
Protection du caribou, nous voulons un équilibre, disent les Inuits d'Essipit. Un texte de Michel Bouchard, paru le 20 septembre 2024 sur Ici Côte-Nord. La communauté Inuit d'Essipit souligne l'importance de trouver un équilibre entre la protection du caribou forestier et le développement économique. Elle insiste sur le fait que la préservation de la biodiversité et le maintien de l'industrie forestière peuvent coexister. Nous avons intérêt à maintenir la vitalité de l'industrie forestière, mais nous sommes conscients que, sans une forêt saine, il n'y a ni ressources à exploiter, ni emplois à préserver, peut-on lire dans un communiqué. La communauté d'Essipit est d'ailleurs copropriétaire de Granulco, un fabricant de granules de bois qui fait partie du complexe industriel de la forestière Boisaco, qui se sent menacé par le décret d'urgence que veut imposer Ottawa en vertu de la loi sur les espèces en péril. En assemblée lundi, le conseil de bande s'y vit renouveler le mandat de préserver l'équilibre entre la protection de l'espèce en péril et les emplois. Depuis les 8 dernières années, on travaille activement à trouver des solutions pour la survie du caribou. Plusieurs tables ont eu lieu qui devaient culminer vers une stratégie caribou, mais force est de constater que ça n'a pas eu lieu, fait savoir le chef de la Première Nation des Inuits d'Essipit, Martin Dufour. Le conseil de bande attend que le gouvernement québécois tienne sa promesse de mettre en place une stratégie pour l'aménagement de l'habitat du caribou, qui aurait dû voir le jour en 2022 et étudie le projet de décret de protection du gouvernement fédéral. De son côté, la députée bloquiste de Manicouagan, Marilyn Gilles, a renouvelé son invitation au ministre fédéral de l'Environnement, Stephen Guilbeault, à venir à la rencontre des citoyens de Sacré-Cœur qui craignent la fermeture de l'industrie qui fait vivre le village. C'était Protection du caribou, nous voulons un équilibre, disent les Inuits d'Essipit, un texte de Michel Bouchard paru le 20 septembre 2024 sur Ici Côte-Nord.